Alors, bienvenue pour cette troisième session donc de la journée en hommage à Fatema Mernissi sur le lecture féministe plurielle. Donc, la troisième session, nous l'avons intitulée Sortir de l'invisibilité. On en a parlé ce matin un petit peu à propos du silence, et donc, c'est que c'était un des points forts d'action de Fatema Mernissi, c'était justement de pousser les femmes à sortir de l'invisibilité, de différentes manières d'ailleurs, ce qu'on va voir cet après-midi. Donc on a deux interventions pour cette session. Alors, la première intervenante, c'est Amel Benaba, qui est enseignante et qui a été enseignante et journaliste à Tunis. Donc, elle a enseigné la philosophie et elle a été journaliste au quotidien tunisien Le Temps, où elle a été responsable aussi de la rubrique Femmes à l'hebdomadaire Le Maghreb. Et elle a été cofondatrice de plusieurs mouvements et institutions. Alors, du mouvement féministe au sein du club culturel Tahaddad, avec Rachida également, de la revue Nissa, de la commission Femmes à l'Union Général des travailleurs tunisiens, de l'AFTUR, de l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement. Elle a collaboré au film Tani Témoin, réalisé par la cinéaste Nadia El Fani sur nos ancêtres Imazir et Carthaginois. Et elle a publié plusieurs choses, La moitié entière, Clore pour éclore à l'aube du féminisme tunisien, dans le livre Tunisienne en devenir, Années 80, Ce qu'ont tramé les maghrébines, fruit de deux ateliers d'écriture animés par Fatema Mernissi à Tunis, puis à Rabat en 1993. Et finalement, elle est membre du collectif des journées féministes maghrébines Fatema Mernissi, où elle a publié dans le livre qui est sorti de cette journée, sur l'atelier d'écriture de Tunis, Fatema Mernissi, accoucheuse d'écrits de femmes tunisiennes. Donc dans le livre Fatema Mernissi et la pensée féministe au Maghreb, que vous pouvez acheter ici. Regardez, je passe la parole donc à Rachida Enaifer, qui est juriste, puisqu'elle a soutenu une thèse sur la question du droit de l'environnement en Tunisie, après toute une carrière déjà de journaliste. Donc elle a fait ce diplôme en droit, elle a profité de la période Ben Ali et de la chape de plomb qui est tombée sur la Tunisie pour faire des études, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire grand-chose à ce moment-là. Alors, docteur en droit public, elle a enseigné le droit constitutionnel à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, à l'université Tunis El Manar. Elle a été journaliste de 76 à 90, présidente de l'association des journalistes tunisiens de 80 à 84 et vice-présidente de la Fédération des journalistes arabes, c'est la première femme, de 83 à 90. Elle a occupé le poste de membre du Conseil de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle en Tunisie de 2013 à 2015, donc pendant toute la période de la constituante et où il se passait énormément de choses qu'il fallait dans le champ justement de la régulation de l'audiovisuel. Elle est membre fondateur du mouvement féministe autonome en Tunisie, de la revue féministe Nissa, et coordinatrice des premières journées féministes maghrébines Fatema Mernissi, donc dont vous a parlé déjà, tenue en 2016 à Tunis. Elle a publié Fatema Mernissi et la pensée féministe au Maghreb, La transition démocratique en Tunisie, de la révolution aux élections de l'Assemblée nationale constituante, et puis elle a participé à Tunisienne en devenir, La moitié entière. Et donc là, elle va nous parler de féminisme et transmission au Maghreb.
Tout d'abord, j'avoue que je n'ai commencé à réfléchir sur la transmission qu'avec la disparition brusque et précipitée de Fatema Mernissi. Avant, vraiment, je ne pensais pas du tout à cette question de transmission. Mais lorsque le 30 novembre 2015, j'ai appris la disparition de Fatima, c'est vraiment pour moi, c'était un coup. Et donc, j'ai compris combien cette mémoire de lutte, de rencontre, de réflexion que nous avons eue ensemble doit être sauvegardée. C'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir sur la transmission. Bien sûr, ça s'est développé un peu avec la naissance de ce concept des journées féministes maghrébines. Et d'ailleurs, ce sont avant tout des journées féministes, c'est-à-dire dédiées à la mémoire des femmes. Et bien sûr, elles portent le nom de Fatima Mernissi. Même à une autre échelle, je suis en train de réfléchir sur un centre pour la mémoire des femmes. Donc voilà, c'est un thème qui me travaille beaucoup. C'est pourquoi je vous le dis, parce que en fin de compte, ce papier n'est pas un papier neutre, n'est pas un papier objectif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai pas pu le faire dans une structure classique. Dans une structure classique, académique, je ne sais quoi. C'était difficile de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est en même temps, finalement, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Donc, je vous prie de m'excuser si quelque part, la forme n'est pas peut-être ce que normalement on doit faire selon les canaux classiques de l'université. Et finalement, auquel je me suis ralliée après tout ce que vous connaissez. Bon, alors, après ceci, donc, je vais parler de féminisme et transmission au Maghreb. Parler de féminisme et transmission, pourquoi parler de féminisme et transmission au Maghreb, ici, à Paris, tout d'abord? Moi, je pense que finalement, le Maghreb a des contours assez illimités. Parce qu'il y a la matrice centrale du Maghreb, et qui sont les trois pays, Algérie, Maroc et Tunisie. Mais le Maghreb s'étend aussi à la Libye, voire même à l'Égypte. D'ailleurs, Ibn Khaldoun, il dit qu'il y a deux périodes de Jazirat al-Maghrib. Il y a une période où justement le Maghreb s'étendait jusqu'à l'Égypte, et après, en fin de compte, on a arrêté les frontières jusqu'à la Libye. Mais il s'étend aussi de l'autre côté à la Mauritanie. Et il s'étend vers le nord, finalement, à tous ces pays où vit une communauté maghrébine très importante. Donc, finalement, le Maghreb, c'est très vaste. C'est très vaste. Quelle diversité, quelle richesse. Et donc, je considère que moi, à Paris, je suis encore au Maghreb. Bon, je demande aux Français de m'excuser, mais je me considère aussi en Maghreb. Voilà. Donc, c'est pas une vie hégémonique, non, mais c'est peut-être une manière d'atténuer ces frontières qui nous séparent et qui nous ont fait beaucoup de mal, et qui ont fait beaucoup de mal aussi au féminisme. Bon, alors donc. Ici, nous sommes à Paris, mais donc on a dit que ça y est, pour une journée, le Paris fait partie du Maghreb. Maintenant, alors, pourquoi parler justement de transmission maintenant ? Maintenant, à un moment où le Maghreb vit une renaissance. Une renaissance, je dirais même un accouchement, mais un accouchement non sans douleur. Avec tous les événements qui le secouent et les questionnements qui jalonnent ces événements, ces événements et ces questionnements interpellent les féministes et les amènent à repenser le féminisme. On est obligé aujourd'hui, au Maghreb, avec tout ce qui se passe, à repenser le féminisme à l'échelle maghrébine. Or, si on veut repenser le féminisme, nous avons besoin, finalement, de cette mémoire des femmes et du féminisme pour pouvoir repenser, parce qu'on ne peut pas avancer si on ne connaît pas ce qu'il y a derrière nous. Donc, je pense que la transmission, aujourd'hui, elle est plus importante que par le passé. Et à ce niveau-là, donc... Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que nous inventons la transmission. Elle existait déjà et je vais l'expliquer. Mais aujourd'hui, elle s'avère être une nécessité. Une nécessité pour nous pour aller de l'avant. Et donc, je l'ai dit au début que finalement, la transmission, c'est, euh, c'est un thème transversal pour toutes ces journées féministes, mais quand même, nous avons besoin de mieux l'approfondir. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de transmission. Peut-être qu'il faut définir la transmission. C'est quoi la transmission ? Traditionnellement, transmettre, c'est faire passer d'une personne à une autre. Donc, faire passer d'une personne à une autre. Et donc, on peut faire passer d'une personne à une autre la possession ou la jouissance de quelque chose, d'un bien, par exemple, la transmission d'un bien. Mais aussi, on peut faire passer une autorité, un pouvoir. On peut aussi, et ça, c'est pas très positif, faire passer une infection, un virus. Et à un certain moment, de toute façon, au début du féminisme, le féminisme, c'était un peu comme un virus qu'il fallait finalement combattre, si ce n'est éviter de ne pas être contaminé. Donc, un virus. Mais de plus en plus, la transmission est devenue synonyme de communiquer, faire connaître. Et à ce niveau-là, donc, ça suppose que le message, c'est un message transmis d'un émetteur à un récepteur. Un émetteur à un récepteur. Mais aussi, la communication évolue et maintenant aussi, on parle d'une transmission dans les deux sens. Et quand on dit transmission dans les sens, c'est ce qu'on appelle la transmission en duplex. En duplex. Et rappelez-vous justement ce mot duplex, parce qu'on va y recourir un peu dans ce papier. Donc, transmission à double sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on va transmettre aussi ? Qu'est-ce qu'on va transmettre ? Qu'est-ce qu'on va transmettre ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Dans quel but cette transmission va se faire ? Et là, à ce niveau-là, il y aurait deux approches. La première approche, c'est transmettre pour dire que nous sommes là. Transmettre pour dire que nous sommes là et que le féminisme, c'est ce que nous croyons être. C'est ce que nous croyons être. C'est une première approche. La deuxième serait justement de transmettre pour contribuer à repenser le féminisme avec les nouvelles générations. Bien sûr, vous allez me dire, ça ne s'exclut pas. Ça ne s'exclut pas. Parce qu'on peut transmettre ce que nous croyons être, mais en même temps transmettre pour repenser le féminisme avec les nouvelles générations. Concernant la première approche, c'est une approche qui se justifie d'autant plus que très longtemps, les femmes ont été invisibles. Les femmes ont été finalement absentes du savoir officiel, classique des universités. Donc, ça peut se concevoir. Et d'ailleurs, le mouvement féministe autonome dont a parlé ML tout à l'heure, qui a vu le jour au début des années 80 au club culturel d'études de la condition de femme, ce mouvement féministe autonome, finalement, a été à l'origine de cette approche-là. Et je donnerai pour exemple le premier bulletin du club d'études de la condition de femme, porté comme titre « Nous par nous-mêmes ». Nous par nous-mêmes. C'était en quelque sorte une déclaration d'autonomie qui venait 25 ans après la déclaration d'autonomie interne de la Tunisie. Vous savez, la Tunisie a eu sa déclaration d'autonomie interne en 55, le 1er juin 55. 25 ans plus tard, les Tunisiennes venaient afficher la déclaration « nous par nous-mêmes ». Donc, en fin de compte, c'est un peu ça. Et donc, à ce niveau-là, la transmission s'est faite à l'intérieur de ce club Tahal Haddad, en créant, entre autres, une commission « Femmes et Histoire ». Et cette commission « Femmes et Histoire », nous sommes allés vers nos aînés, vers Bchira Ben Mrad. C'est la présidente de la première organisation de femmes en Tunisie au début du XXe siècle. C'est l'Union des femmes musulmanes de Tunisie. Nous sommes aussi allés vers Nabiha Ben Miled, la première présidente de l'Union des femmes de Tunisie, Chrifa Saadawi, qui est une des premières femmes syndicalistes. Toutes ces femmes-là, nous sommes allées vers elles et nous les avons ramenées au club pour écouter leurs témoignages. Et donc, il y a eu un grand travail qui a été fait à ce niveau-là. Et ce travail a été relayé par l'université. Et nous allons voir naître la première thèse féministe en Tunisie, celle de Ilham Marzouqi. Celle de Ilham Marzouqi qui a étudié en tant que livre, laquelle Ilham Marzouqi va donner son nom à la première université féministe en Tunisie. Voyez un peu toute cette chaîne de transmission qui s'est faite. Alors, et là, quand je parle justement de cette expansion, on est en matière de transmission intergénérationnelle. C'est une transmission entre les générations. Et cette transmission intergénérationnelle allait commencer en Tunisie, mais aussi au Maroc, à moindre échelle, en Algérie, mais sauf avec justement cette variante, c'est qu'en Algérie, durant cette période, et bien sûr Fatiha est là par la suite pour me rectifier, le blocage institutionnel et politique a pesé de tout son poids pour le déploiement du mouvement féministe. Donc en fin de compte, il y avait à ce niveau-là, peut-être, finalement, on n'allait pas à la même cadence. Mais enfin, il y avait un contexte qui nous unissait. Bon, maintenant, je ne vais pas m'éterniser sur cette vague du féminisme des années 80. Je vais surtout essayer de lier cette vague à une nouvelle vague de féminisme qui voit aujourd'hui le jour en Tunisie, mais aussi dans les autres pays du Maghreb, toujours avec des cadences différentes. Alors, cette nouvelle vague de féminisme en Tunisie, c'est une vague, finalement, qui est le résultat du foisonnement associatif qui s'est développé après la Révolution. Vous savez, avec la Révolution, les premiers mois de la Révolution, il y a eu l'édiction des 6 lois de la libération. On parle des 6 lois de la libération. Et sur ces 6 lois de la libération, il y a la loi sur les associations. Parce qu'en fin de compte, en Tunisie, les associations obéissaient au régime de l'autorisation. Il n'y avait pas l'équivalent de ce qu'il y a en France ou même au Maroc, la loi de 1901. Donc, il y avait des restrictions. Et au lendemain de la Révolution, cette loi a été finalement abrogé, il y a une nouvelle loi qui a libéralisé la création des associations, si bien qu'actuellement nous en sommes à 17 000 associations en Tunisie. Bon, toutes ne sont pas actives, il y a quelque chose comme 4 000 associations qui sont actives. Et sur ces 4 000 actives, il y a beaucoup d'associations qui ont commencé à voir le jour, des associations de femmes ou féministes. Et sur ces nombreuses associations, je vais prendre le cas de 2 associations. L'association Chouf et l'association Nisset Sbatach, Nisset 17. Et pourquoi? Parce que l'exemple de ces 2 associations me paraît très édifiant quant à la transmission qui est en train de se faire en matière de féminisme. Alors, et d'ailleurs, ceci vient contredire le discours de beaucoup de féministes et qui parlent de l'absence de relève. D'ailleurs, je n'aime pas ce mot relève, parce qu'en fin de compte, ça me fait penser à l'armée. Je n'aime pas du tout ce mot relève. Mais il y a justement, on parle toujours de relève. Donc, je vais commencer par la première Chouf. Chouf, c'est un collectif. Chouf, vous voyez. C'est un collectif qui a été créé en 2013. En 2013, c'est un collectif féministe LGBT, donc lesbienne, bisexuelle, transsexuelle. Et donc ce collectif travaille avant tout sur le corps de la femme et la lutte contre les discriminations. Le collectif a depuis plusieurs actions à son compte. Et il organise notamment chaque année un festival international des arts féministes. Un festival féministe international des arts. Donc, finalement, ce festival est ouvert à toute personne s'identifiant comme femme, je les cite, s'identifiant comme femme. À ce titre, cette personne est invitée à venir s'exprimer à travers une création artistique. Donc, s'exprimer en tant que femme à travers une création artistique. Sur le site d'ailleurs du CHOUF, on peut lire 5 minutes après ta naissance, ils décideront de ton nom, de ta nationalité, de ta religion, de ta sexualité et de ta communauté. Et tu passeras toute ta vie à te battre pour des choses que tu n'as pas choisies et à les défendre bêtement. Ça, c'est écrit sur le site de CHOUF. Oui, oui, qu'ils l'ont repris. Donc, en fin de compte, CHOUF a jusque-là, donc, il y a jusque, le festival s'appelle CHOUF Touhonna, le collectif CHOUF et le festival CHOUF Touhonna. Et CHOUF et CHOUF Touhonna, on est à sa quatrième édition. Ce qui est intéressant, c'est de, pour la troisième édition en 2017, le festival a rendu un hommage posthume à Rajeh Ben Ammar. Rajeh Ben Ammar, qui est une grande comédienne tunisienne. Pourquoi lui a rendu hommage? Parce que c'était Rajeh Ben Ammar qui avait, en fin de compte, elle a un espace, Rajeh Ben Ammar culturel, et donc elle a abrité les deux premières éditions. Vous voyez, en fin de compte, rappelez-vous en duplex, cette interactivité. Donc les jeunes, en fin de compte, qui rendent hommage à titre posthume à Rajeh Ben Ammar, laquelle Rajeh Ben Ammar a été à l'origine pour aider ce festival. Un festival, mais aussi beaucoup d'actions de rue. Par exemple, vous avez aujourd'hui à la rue Garibaldi, qui est une rue franchement masculine. C'est une rue vraiment franchement masculine, mais c'est une rue finalement qui est à deux pas de l'avenue Habib Bourguiba. Alors, CHOUF a érigé une grande fresque murale sur laquelle on voit deux grandes femmes qui sont deux têtes de femmes qui sont en train de se parler. Sur ce mur ou dans la rue où il n'y a que des hommes. Et donc, là, je veux insister que l'approche de CHOUF est essentiellement culturelle. Mais c'est la même chose pour le club d'études de la condition de femme. 30 ans, il y a 30 ans de cela, l'approche était aussi essentiellement culturelle. Et c'est là où, justement, on va voir des points de continuité entre CHOUF et le club d'études de la condition de la femme. L'approche était essentiellement culturelle. Et d'ailleurs, la plateforme du club d'études de la condition des femmes dans les années 80 énonçait qu'il fallait, justement, changer les mentalités afin de réaliser l'émancipation des femmes. Donc, c'est le culturel ici qui prend le dessus. Le culturel prend le dessus ici, mais le culturel aussi au Maroc. Nous venons de rencontrer une femme extraordinaire, Hakima Labar, qui est psychanalyste et qui tient une galerie et qui décline le féminisme sous des formes culturelles diverses. Voyez un peu ce culturel et ce culturel qui est transmis à travers les générations. Et si on continue ce regard croisé, on va trouver aussi que la question de la sexualité, qui est actuellement au cœur de l'action du collectif CHOUF, c'est une question qui a commencé, Amel l'a très bien dit, à être une question pivot au Club Tahar el-Haddad. Seulement, Club Tahar el-Haddad a à un certain moment échoué là où peut-être le mouvement CHOUF a repris le flambeau. Pourquoi je dis échoué? Parce que, cette question de la sexualité qui a été abordée dans les années 80 et qui a vu un peu son aboutissement dans le premier colloque maghrébin que nous avons organisé, ce colloque était dédié à la sexualité des femmes, tout de suite, en fin de compte, la question de la sexualité a soulevé de multiples résistances dans les milieux du pouvoir, mais aussi et surtout de la gauche, qui ont cherché à encadrer ce mouvement devenu trop autonome. C'est-à-dire que jusqu'au moment d'aborder la sexualité, l'autonomie ne dérangeait pas la gauche outre mesure. Bon, elle dérangeait un peu le pouvoir, mais pas la gauche. Mais à partir du moment que la question de la sexualité s'est posée, donc cette autonomie dérangeait, commençait à déranger, et donc en fin de compte, on était pour les uns subversifs, pour les autres, on était des libertaires. Et c'est ce qui a fait qu'en fin de compte, c'est ce qui a fait que, bien sûr, la levée de tous ces boucliers, il faut rappeler, ne se passait pas dans une situation démocratique. Ça se passait dans un pays qui était en déficit de démocratie. Et donc, ce qui s'est passé tout de suite, c'est le politique qui allait prendre le dessus. Et donc, le club Tahar al-Haddad, qui a commencé par être, en fin de compte, le foyer du féminisme culturel et d'une réflexion autonome des femmes, petit à petit, est devenu, en fin de compte, la passerelle vers ce qu'on a appelé le mouvement femmes démocrates, le mouvement les femmes démocrates. Déjà, démocrate, ça veut dire qu'en fin de compte, le féminisme tunisien devait avant tout réfléchir sur la démocratie, devait avant tout devenir politique. Vous voyez, donc, il y a là une évolution du féminisme des années 80. C'est pour vous dire qu'actuellement, le mouvement Chouf est en train de reprendre, mais d'une manière autonome, ce que finalement... ce qui a émergé au club Tahar al-Haddad dans les années 80, mais de façon tout à fait autonome, parce que la transmission n'est pas on la dicte pas la transmission. Donc, il me reste 2 minutes. Bien, d'accord. Alors 2 minutes, je vais quand même parler de cette deuxième association et qui est l'association Nice Spartach. L'association non pour. Alors. Nice Spartach. Nice Spartach, c'est une association qui a vu le jour en 2017, à la suite d'un grand mouvement de contestation venant des diplômés chômeurs de la région de Manzil Bouzaïen. Manzil Bouzaïen, c'est une des localités les plus pauvres de Sidi Bouzid. Vous voyez, la révolution est partie de Sidi Bouzid, mais Manzil Bouzaïen, c'est une des localités les plus défavorisées, pas pauvres, parce que la Tunisie n'est pas pauvre en ressources, mais défavorisée, donc, de Sidi Bouzid. Et là, donc, le nombre de diplômés chômeurs était, bien sûr, est très élevé, et il y a eu un mouvement de contestation, et la particularité de ce mouvement de contestation, c'est un mouvement de contestation de femmes, diplômés chômeurs. Donc elles ont entrepris beaucoup d'actions et ça a abouti à un sit-in au siège de la municipalité. Pendant plus d'un mois, 17 femmes se sont retrouvées, elles se sont enfermées dans la municipalité, il y avait avec elles un homme seulement, et elles se sont enfermées, et là ont commencé les pressions sociales de la famille, des camarades, des partenaires. Tout le monde n'imaginait pas comment 17 femmes étaient là pendant un mois et la présidente nous a raconté comment ils ont dû fermer leur téléphone pour résister parce que tout le monde. Et donc, ce qui s'est passé, bien sûr, l'une d'entre elles a même rompu avec son mari. Et donc, elle a divorcé, elle avait un enfant, elle avait divorcé. Et donc, à la suite de cela, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement de revendication de droits sociaux et économiques a évolué vers un mouvement féministe. Vers un mouvement féministe à cause justement de toutes les réactions autour de cette action. Et ça a abouti à la création de l'association Nisse Espartage. Nisse Espartage, c'est une association, bien sûr, qui œuvre pour le droit des femmes au travail, mais aussi œuvre pour le droit d'accès des femmes aux espaces publics et à une plus grande visibilité, quand même, dans une région où les femmes n'ont pas toujours besoin la possibilité d'accéder aux espaces publics. Alors, vous allez me dire, mais en quoi il y a transmission là? J'ai réussi à faire le parallèle avec le club Tahal Hadet pour Chouf, mais ni ce partage, ça nous fait revenir à la fin, à décembre 77, où la Tunisie vivait finalement un mouvement social qui a été réprimé le 26 janvier dans le sang. Alors, le mouvement social tunisien a été réprimé le 26 janvier dans le sang et il y a eu beaucoup de morts, plus de morts que pendant la révolution. Ça s'est établi. Et donc, finalement, à ce moment-là, les femmes s'étaient retrouvées à l'Union générale des travailleurs tunisiens pour justement créer la commission d'études et de recherche sur les femmes et pour appeler à une première conférence internationale sur le travail des femmes. Donc, on peut dire que le mouvement autonome du club Tahal Hadid a eu, c'est-à-dire en fin de compte, est le prolongement de cette première rencontre des femmes à l'UGTT. Donc, vous voyez un peu quand même, et lorsque j'ai parlé avec le groupe Nisse Espartage de ce qui s'est passé, elles étaient très heureuses parce qu'elles se sont retrouvées dans cela. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le féminisme ne naît pas de rien. Il naît bien sûr de conditions particulières, mais aussi que quelque part, il est favorisé par une certaine forme de transmission qui se passe. Et donc, la transmission, j'allais parler d'une autre, mais je ne vais pas en parler, je vais juste dire, j'allais parler d'une autre forme de transmission qui n'est pas moins intéressante, mais ça ne fait rien, après on va publier tous ces travaux, c'est ça ce qui me concerne. Donc, une autre forme de transmission qui n'est pas moins intéressante, c'est la transmission entre universitaire, académique et féministe, entre recherche universitaire et recherche académique. Et ça, c'est une transmission qui est très importante. Et en Tunisie, nous avons cette expérience. Et c'est une expérience qui n'est pas sans difficulté, qui rappelle beaucoup l'expérience évoquée ce matin pour le Maroc, l'université marocaine, pour Fatima Mernissi. C'est-à-dire avec tout ce rejet, mais aussi cette lutte. Et c'est une lutte qui a coûté fort à beaucoup de féministes et à beaucoup de chercheurs. Il y a des thèses qui ont été refusées. Il y a finalement eu beaucoup à cause de ça. Donc, pour conclure, je vais... tu sais, c'est comme de le cinéma. On termine par la même image. Bon, je commençais par Fatima, c'est vrai. Pour conclure, je dis qu'en fin de compte, la transmission, elle est importante. Et la transmission, cette transmission, l'apport de Fatima à cette transmission a été capital. Et là, je voudrais juste terminer par le témoignage qu'apporte Nawel Saadawi dans ce livre en guise d'hommage à Fatima al-Mernissi. Alors, Nawel Saadawi, dans une page et demie, elle a tout dit. Elle nous raconte comment, un soir, on sonne à sa porte. Et elle pensait que la police était revenue, parce que Nawel Saadawi avait été emprisonnée une année avant. Elle pensait que la police était revenue. Donc elle a dit, j'essayais de m'habiller pour partir avec eux. Et donc, quand elle essaie de demander qui, elle écoute la voix d'une femme marocaine. Elle ouvre, c'est Fatima Mernissi. Et alors elle a dit, Fatima Mernissi était venue me demander de venir donner une conférence dans son université, parce que justement, elle était en train d'enseigner mon livre « Al-Mar'a wa Jans ». Fatima Mernissi, de retour des États-Unis, elle intègre l'université et elle commence par enseigner le livre de Nawel Saadawi.
« La femme et le sexe
hein. ».« Al-Mar'a wa Jans », « La femme et le sexe ». Elle commence par l'enseigner. Elle demande à Nawel Saadawi de venir à l'université de Rabat pour donner une conférence. Et Nawel, bien sûr, dans sa générosité, qui est égalable à celle de Fatima, Parce que nous, moi, pour moi, Nawel, j'ai ouvert mes yeux en temps, sur le féminisme avec Nawel Saadawi. Et donc, elle y va. Et quand elle arrive, en fin de compte, elle trouve que finalement, il y avait un nombre fou d'étudiants qui voulaient écouter Nawel dans une salle qui était très petite, parce que le doyen s'est arrangé pour donner la plus petite salle. De là, une émeute, les étudiants cassent la porte de la grande salle de conférence et ils rentrent dans cette salle et Nawel, elle donne sa conférence. Et elle a dit depuis, c'est une amitié comme il est à Fatima, une amitié et aussi une complicité et une solidarité incroyable. Et donc, elle a dit, je ne comprends pas pourquoi elle est partie si vite. Voilà, merci.
Et merci Rachida pour ce témoignage, mais aussi cette analyse dans les normes classiques. Très, très émouvant. Alors, mais je ne peux pas m'empêcher maintenant quand même de, si vous le permettez, de dire quelques mots, parce que bon, ce qu'ont évoqué Emel et Rachida, bon, ça m'incite à parler aussi quand même de l'expérience qu'on a eue en Algérie du groupe du GRFA, du groupe de recherche sur les femmes algériennes au début des années 80. C'était le premier groupe féministe en Algérie, à Oran, à l'université d'Oran, et on était formellement dans l'université, mais en fait le groupe s'est rapidement rempli de femmes qui n'étaient pas universitaires. À un moment, on n'était plus que deux universitaires et c'était surtout des femmes qui venaient là par attrait de ce qu'on faisait, du féminisme. Ça a duré quelques années, hein, mais ça a été un lieu de liberté jusqu'au moment où on nous a demandé, le centre de recherche et documentation de l'université d'Oran qui nous hébergeait. Nous a demandé de rentrer dans les canons universitaires. Nous, bon, on aurait dû quand même... On a fait la bêtise de se révolter, de refuser de le faire, donc on s'est retrouvés sans rien du tout. On a perdu cet espace de l'université, on aurait pu le garder, ça a été pris par d'autres. Bon, bref, ça, on ne va pas réécrire l'histoire, mais on était jeunes. Hein, mais à ce moment-là, on a fait des choses, on a organisé par exemple des 8 mars subversifs où on critiquait le 8 mars officiel, parce que dans un pays socialiste, le 8 mars est très important. Donc nous, on a publié des choses sur tous les stéréotypes du 8 mars, où on a critiqué la presse, et on a sorti deux revues, une qui s'appelait Isis, la lessive des mots, parce que Isis, c'était une marque de lessive en Algérie. Et donc, voilà, c'était la lessive des mots. Et on a, à l'époque, c'était l'époque de la linguistique, de la sémiotique, on a fait des études sur la presse, c'était beaucoup sur les discours, en fait. Hein. On était sur les critiques des discours. Et dans ce cadre-là, on a été invité à Tunis, donc dans le cadre de la rencontre, je crois que c'est... Moi, je me rappelle, la première, c'est les ciné-clubs, mais on a Hammamet. Du mal avec... À Hammamet, et c'est là qu'on a rencontré les Tunisiennes, et ça a été une rencontre merveilleuse. On a été au club Tal Haddad. On a... Bon, elles étaient plus avancées que nous, parce que nous, on était dans un régime, système de parti unique. C'était terrible, hein, on pouvait rien faire. Même à l'université, on avait un petit espace quand même, mais c'était pas grand-chose. Et donc cette amitié s'est maintenue depuis jusqu'à aujourd'hui, voilà, avec des hauts débats, mais on a cette expérience du GRFA qu'il faudrait un jour écrire, qu'on a jusqu'à présent. Il y a un article d'une espagnole en espagnol qui a raconté l'histoire du GRFA, mais je pense qu'il faudrait que le faire, mais c'est difficile de le faire pour ceux qui l'ont vécu. Je trouve que la transmission aussi, c'est peut-être, il faut une distance. C'est bien quand il y a des étudiants qui prennent la relève et qui écrivent sur ce que des gens ont vécu et qui ne vont pas forcément être capables de raconter objectivement. Donc il y a ce rôle aussi de la recherche avec plus de recul. Et concernant Fatema Mennessi aussi, bon, je voulais dire que moi, quand j'ai découvert les écrits de Fatema Mennessi, j'ai commencé par La femme dans l'inconscient musulman de Fatna Etsabah. Elle nous a bien dit que c'était elle qui l'avait écrit. Hein. Je pense que c'est quelque chose de connu. Ces autres écrits, moi, ce qui m'a en fait le plus frappé dans ses écrits, c'était son rapport à l'islam, qui était un rapport critique et tout, mais un rapport de grande tendresse. C'était pas un rapport de rejet comme on le trouvait dans les milieux féministes, laïques, de rejet. Et nous, on était complètement enfermés là-dedans, hein, dans le, parce que nous, le mouvement des femmes en Algérie, Et le GRFA aussi, quelque part. Hein. C'était beaucoup rejet du religieux. Hein. C'était pas question de... Et d'abord, on n'y connaissait rien du tout, en plus, parce que souvent, le rejet du religieux, c'est une ignorance. Hein. C'est d'abord une ignorance. Dans les milieux qui se disent laïcs, parce que quand on commence à s'y intéresser, on a une autre... Quand on commence à connaître, on a forcément... D'abord, on a dans une première étape, on prend conscience de son ignorance et de la complexité de la question. On en parlera peut-être après sur l'héritage. Et alors nous en Algérie, on était complètement enfermés dans cette histoire de code de la famille qui est un héritage colonial. On était enfermés dans la constitution qui se référait à l'islam et qui reconnaissait l'égalité des sexes. Et on était enfermés là-dedans. Et en fait, cette question-là, après les événements se sont précipités dans les années, à la fin des années 80, avec l'épisode démocratique, et puis on s'est retrouvé engagé dans l'activisme féministe, parce que les associations féministes ont pu exister. Bon, elles existaient avant clandestinement, donc on activait aussi, mais elles ont pu exister. Et on s'est trouvé pris dans le politique dont tu parles. Et en fait, c'est après les premières élections démocratiques et ce qu'on appelait le raz-de-marée islamiste, que moi, je suis revenue à Fatima en me disant, en fait, la question de l'islam qu'on a mis de côté, on ne voulait pas qu'on nous enferme dedans. On disait, nous, la question des femmes, ça n'a rien à voir avec le religieux. Nous, on se pose sur le terrain de la citoyenneté, etc. C'est là que je me suis rendu compte de l'importance de cette question et que j'ai commencé à m'y intéresser. Sérieusement et modestement, parce que jusqu'à présent, je continue à considérer que j'ai une grande ignorance sur cette question.